France Culture.
Et je reprends mon souffle pour passer le relais à Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Sale temps pour les GAFAM. Google condamné ce soir à une amende de près de 3 milliards d'euros par l'Union européenne pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne. C'est la troisième amende en une semaine pour le géant de la tech. Des géants de la tech également accusés d'avoir pillé des millions de morceaux de musique pour entraîner leurs outils d'intelligence artificielle. Révélation du magazine américain Billboard et explications à suivre. L'actualité ce soir est aussi à Gaza où l'armée israélienne cible les immeubles de la ville de Gaza faisant au moins 19 morts. Nous parlerons également de la journée mondiale de la forêt amazonienne avec une action de Greenpeace devant la mairie de Paris pour alerter sur les conséquences de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Enfin, le dossier de ce journal est consacré ce soir à la fin des manuels scolaires, des manuels en voie de disparition, aux grandes dames des éditeurs en premier lieu. C'est donc une amende plus que salée que la Commission européenne inflige ce soir à Google, près de 3 milliards d'euros pour abus de position dominante et pratiques anticoncurrentielles. Et ce, malgré les mises en garde de Donald Trump, qui avait menacé de droits de douane et de restrictions à l'exportation les pays ou organisations souhaitant réguler le secteur de la tech. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant permanent à Bruxelles. Fabien, l'amende vise les pratiques du géant américain sur le marché de la publicité en ligne.
Oui, c'est une activité moins connue du grand public que celle du moteur de recherche, mais Google est aussi un acteur absolument central de la mise en relation sur Internet des annonceurs avec des éditeurs de contenu. Et le problème, aux yeux de la Commission européenne, c'est que son outil Google AdX, qui met les deux en relation, fait une part trop belle au site et au contenu du géant américain au détriment de ses concurrents. Google a maintenant 60 jours pour se mettre en conformité avec les exigences de la Commission européenne, qu'il appelle a davantage joué le jeu de la concurrence sous peine de nouvelles sanctions. 60 jours, il en faudra peut-être au moins à Donald Trump pour réagir, lui qui avait menacé fin août les pays régulant le secteur numérique de nouveaux droits de douane. Les Européens lui avaient opposé que c'est au contraire pour eux un droit souverain. Cette méga amende a donc également valeur de test dans le contexte de tensions commerciales persistantes entre l'Union Européenne et les États-Unis.
Fabien Cazot, et le géant américain a vigoureusement critiquer cette décision européenne ce soir et annonce faire appel de cette amende, la troisième en une semaine après celle infligée en France par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de 325 millions d'euros pour des manquements aux règles sur les données personnelles dans ses pratiques publicitaires, après l'autre amende de la Cour fédérale de San Francisco de quelque 425 millions de dollars pour atteinte à la vie privée de près de 100 millions d'utilisateurs. Google, mais aussi Meta ou encore Microsoft dans le viseur de l'Association professionnelle internationale de l'édition musicale, qui dénonce le plus grand vol de propriété intellectuelle de l'histoire. Ce sont les mots de l'ICMP qui accuse les géants de la tech d'avoir donc volé des millions de chansons pour pouvoir entraîner leurs outils d'intelligence artificielle. L'association a mené l'enquête révélée aujourd'hui par le magazine américain Billboard. Bonsoir Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
Ce sont des chiffres qui donnent le vertige.
À chaque jour, ce sont plusieurs dizaines de millions d'œuvres qui sont pillées selon l'association des musiques, absorbées en quelque sorte par des logiciels d'intelligence artificielle. Gemini, Jukebox, Suno, pour vous citer quelques noms, des logiciels qui vont en fait se servir de ces musiques pour s'entraîner à produire des morceaux parfois très convaincants, mais finalement pas très étonnants quand on sait qu'ils sont inspirés des catalogues de Bob Dylan, Elvis Presley, Michael Jackson ou Madonna.
Et ces logiciels, pardonnez-moi Louis-Valentin, appartiennent bien à des géants de la tech.
Des géants qui s'appellent Meta, X, Microsoft, Google et qui devraient donc rémunérer les artistes, les labels ou les ayants droit. Philippe Kurt fait partie du cabinet PMP Stratégie qui a réalisé une étude sur l'impact de l'IA à la demande des éditeurs.
Aujourd'hui, la plupart des acteurs qui ont utilisé les œuvres, qui ont entraîné leur moteur, se retrouvent en infraction avec l'utilisation de ces œuvres qui sont des œuvres sous droit. On a un gros, gros sujet, un gros enjeu aujourd'hui, et ça avance, mais ça avance très, très doucement, de se mettre autour de la table, au niveau local, au niveau des législations locales, que ce soit au niveau des continents, que ce soit au niveau des pays, pour justement pouvoir faire du lobbying auprès des régulateurs et se mettre d'accord sur le fait qu'on rémunère. Parce que si on ne le fait pas, c'est considéré comme du pillage en fait des œuvres.
Alors on se doutait de l'ampleur du phénomène, mais c'est la première fois qu'une enquête en montre l'étendue, preuve à l'appui. L'ICMP a épluché pendant 2 ans des registres, des articles épaulés par des experts en intelligence artificielle. C'est aussi la première fois que ces données sont révélées publiquement, mais l'association d'éditeurs les a déjà communiquées ces derniers mois à des instances gouvernementales. Il faut savoir que les entreprises ont une obligation de transparence, elles doivent dire comment elles entraînent leurs intelligences artificielles depuis la loi européenne sur l'IA, votée l'an dernier.
Explication signée Louis-Valentin Lopez pour France Culture. 700e jour de guerre dans la bande de Gaza et les frappes de l'armée israélienne qui s'intensifient encore dans l'enclave dévastée. Ses cibles désormais, les tours d'immeubles dans la ville de Gaza, converties, selon elle, en infrastructures terroristes. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. Et ces frappes, Michel, s'inscrivent dans l'offensive israélienne sur la ville qui ont déjà fait 19 morts depuis ce matin d'après la défense civile de Gaza.
C'est le début, s'est contenté de poster sur son compte X le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, aux côtés d'une vidéo de la tour Mushtaha qui s'effondre. L'armée israélienne a de son côté annoncé avoir bombardé cet immeuble, un des plus hauts de la ville de Gaza, situé dans le quartier de Rimal, en affirmant qu'il était utilisé par le Hamas pour contrer les attaques israéliennes. Toujours, selon les militaires, des mesures ont été prises pour limiter les risques pour les civils. Une allégation mensongère pour l'organisation islamiste qui estime qu'il s'agit d'un crime de guerre. Alors, le bilan de cette attaque n'est pas clair à ce stade. Israël affirme avoir dès à présent pris le contrôle de 40% de la ville de Gaza. L'offensive va se poursuivre de manière progressive, indique-t-on ici. 70 000 Gazaouis sur près d'un million ont quitté la ville, toujours selon les sources militaires israéliennes.
Et dans le même temps, Michel, eh bien, la guerre de communication se poursuit avec une nouvelle vidéo d'otages israéliens diffusée par le Hamas aujourd'hui.
Oui, c'est une vidéo de 3 minutes et demie publiée par le Hamas. On y voit 2 otages, Alon Ohel, dont c'est le premier signe de vie depuis le 7 octobre 2023, et Guy Gilboa Dalal. Ce dernier se trouve dans une voiture qui se déplace au milieu de ruines. Il dit que la vidéo a été tournée le 28 août dernier et affirme se trouver dans la ville de Gaza. À ses dires, 8 autres otages s'y trouvent également. Et il s'adresse directement au Premier ministre Netanyahou en lui demandant de ne pas mener l'offensive militaire israélienne à Gazaville, approuvée par le gouvernement israélien. En Israël, on parle de terrorisme psychologique. On affirme qu'il s'agit clairement d'une tentative de faire monter la pression à la veille d'un nouveau rassemblement de masse ici à Jérusalem, à l'appel des familles d'otages pour marquer leurs 700 jours de captivité.
Michel Paul, en direct de Jérusalem. Jérusalem, où le consulat de France pourrait être fermé. L'option est en tout cas sur la table, d'après la vice-ministre des Affaires étrangères israélienne, en représailles à la pression exercée par Emmanuel Macron, qui veut pousser les États à reconnaître l'État de Palestine, explique Sharen Haskel. Alors que le chef de l'État français doit reconnaître et officialiser l'État de Palestine lors de la conférence de l'ONU le 22 décembre prochain. On y revient dans le journal de 19h. La France et les 25 pays de la coalition des volontaires qui se sont engagés hier à soutenir militairement l'Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Un soutien au sol, en mer et dans les airs, le jour où le conflit s'arrête, précise Emmanuel Macron, pour dissuader la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine. Or, ce soutien a immédiatement suscité une nouvelle levée de boucliers de la part de Moscou. Une force occidentale en Ukraine serait une cible légitime pour Moscou, prévient aujourd'hui Vladimir Poutine. Séoul appelle ce soir Washington à respecter les droits de ses ressortissants. Après l'arrestation de près de 300 Sud-Coréens aux États-Unis, interpellés lors d'une opération du service américain de l'immigration dans une usine en construction en Géorgie, une usine de batteries pour véhicules électriques des géants sud-coréens Hyundai et LG. Un nouveau raid qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur des personnes sans papier, précisent les autorités américaines. Amazonia, écrit en lettres blanches devant le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Aujourd'hui, action des militants de Greenpeace à l'occasion de la journée mondiale de la forêt amazonienne. Un rassemblement a été organisé en présence de plusieurs personnalités brésiliennes. Bonsoir Véronique Roberotte.
Bonsoir.
Rassemblement pour alerter notamment sur les effets délétères de l'accord de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Mercosur qui menacerait un peu plus le poumon vert de la planète.
Oui, par ses exportations vers l'Europe synonymes de plus de déforestation, de tensions aussi entre agrobusiness et peuples autochtones. De passage à Paris, Loana du club Kangag est inquiète. Elle fait partie du collectif Articulation des peuples autochtones du Brésil.
Des lois vont légaliser le fait que les gros fermiers pourront empiéter encore plus sur les terres autochtones. Chez moi, ça veut dire plus de déforestation, de pollution de l'air et des rivières avec des pesticides pulvérisés par avion ou drone. Ça a des effets sur notre santé. Les pesticides sur les cultures provoquent entre autres des fausses couches et des malformations des fœtus.
Autre menace, la fin prochaine peut-être d'un moratoire sur le soja en vigueur depuis 2006. De grandes entreprises s'engagent à ne pas acheter de soja venant de zones déboisées. Selon les ONG, grâce à ce moratoire, la déforestation a quand même chuté de 69% entre 2009 et 2022 dans les zones concernées. La fin de ce moratoire serait une catastrophe. Selon Boris Patenteger, il est directeur de l'ONG Mighting Earth. Il demande aux citoyens en fait de se mobiliser à 2 mois de la COP30 sur le climat qui doit se tenir au Brésil.
On demande en gros dans cette situation à ce que les utilisateurs, qui sont les utilisateurs finaux de soja, le secteur de l'alimentation animale, les grands producteurs de viande, la grande distribution en France, en Europe, dans le monde, à rappeler qu'ils sont fortement engagés pour soutenir ce moratoire. Pas le dire en catimini comme ils le font jusque-là, mais le dire fortement, l'assumer, le dire individuellement. Et donc là, on lance ce manifeste à soutenir le moratoire du soja. Aujourd'hui, journée mondiale de l'Amazonie, pour qu'à la COP, on ait la majorité du secteur du soja soit engagée à maintenir ce moratoire, afin qu'on puisse continuer à avoir cette forêt, ce bien commun qu'est l'Amazonie.
Voilà, de grands groupes français, les Mousquetaires, Leclerc ou encore Métro, se sont engagés en faveur de ce moratoire sur le soja.
La précision de Véronique Rebérotte pour France Culture. Il entend bien éviter à tout prix la paralysie du pays. À l'approche du mouvement Bloquons Tout, prévu à partir de mercredi prochain, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vient d'adresser une note à tous les préfets. Et David Di Giacomo, eh bien, il détaille la ligne de conduite à tenir pour prévenir tout trouble à l'ordre public.
Alors pour Bruno Retailleau, toute tentative de blocage devra être entravée. Voilà pourquoi il demande au préfet d'être en mesure mercredi prochain de faire débloquer au plus vite les infrastructures stratégiques. Le ministre de l'Intérieur liste les gares, les ports, les aéroports, mais aussi les dépôts pétroliers, centrales électriques ou encore plateformes logistiques. Les forces de l'ordre devront aussi intervenir en cas de tentative de blocage de lycées ou encore d'universités. Ce que veut le ministre, c'est afficher un message de fermeté à destination de ses troupes avant cette échéance. Aucune dégradation de bâtiments publics ne sera tolérée, explique-t-il encore dans cette note envoyée donc à tous les préfets. Il évoque des menaces diffuses, certes, mais bien réelles.
Et David, les services de renseignement craignent des actions violentes.
Oui, d'après le renseignement territorial, c'est désormais la mouvance d'ultra-gauche qui noyote le mouvement Bloquons Tout. Alors certes, une quarantaine de manifestations déclarées sont déjà annoncées, mais ce n'est pas la principale inquiétude des policiers. Ce qu'ils redoutent, ce sont des actions de sabotage, de blocage visant des sites stratégiques. Bruno Retailleau s'est exprimé à ce sujet ce matin en marge de son déplacement à Clermont-Ferrand.
Très clairement. On voit bien que le mouvement s'est gauchisé. Monsieur Mélenchon tente de le récupérer, que c'est la mouvance d'extrême gauche, d'ultra gauche, aidée par la CGT, qui va être à l'œuvre. Je ne crois pas à des mouvements d'ampleur. En revanche, compte tenu de ces mouvances-là, de leur radicalité, il peut y avoir des actions spectaculaires, etc. On doit pouvoir en France manifester une exaspération. On doit pouvoir en France manifester sans bloquer le pays. Bloquer tout, c'est pire que tout. Le pays n'a pas besoin d'être bloqué. Il a au contraire besoin d'avancer.
Alors, ce que demande le ministre aux policiers et aux gendarmes, c'est de quadriller au maximum la voie publique, en clair, d'être le plus visible possible, quitte à rappeler des effectifs en congé. Bruno Bartosetti est secrétaire national du syndicat de police Unité. Lui aussi s'attend à des débordements.
Il va falloir intervenir très très rapidement. Ce qui est à souligner, ce qui est important, c'est que bien sûr que nous ferons notre travail parce que on respecte les manifestations lorsqu'elles sont encadrées. Tandis que là, on n'est pas sur des manifestations. On est sur des groupes. Il n'y a pas de colonne vertébrale. On est sur des groupes. Chacun y va de son idée pour finalement créer le débordement. Donc, on est dans des violences urbaines préparées et certainement pas des manifestations.
Les services de renseignement soulignent que ce mouvement Bloquons Tout, sans leader et sans organisation structurée, est difficile à anticiper. Tout de même, d'après leurs estimations, au moins 100 000 participants sont attendus mercredi prochain.
Explication signée David Di Giacomo, France Info pour France Culture. Quand un prêtre accusé d'agression sexuelle avoue, le père Eugène Plater, 90 ans, curé dans l'Yonne, reconnaît aujourd'hui dans plusieurs médias avoir agressé des enfants dans les années 60, à l'époque où il dirigeait une école catholique avec internat dans le quartier latin à Paris, école où étaient inscrits des enfants de la diaspora polonaise. Alors que 13 victimes présumées ont saisi au début de l'été été l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, eh bien le curé reconnaît les faits qui sont aujourd'hui prescrits. Mathilde Lemaire.
Des années 60 jusqu'à la fermeture de l'école en 1988, plusieurs anciens élèves dénoncent des attouchements quotidiens, voire des viols, dans le dortoir ou dans le bureau où le père Plater avait son lit. Figure de l'église polonaise formée à Rome, proche du pape Jean-Paul II à l'époque, il avait, il y a 14 ans, demandé pardon à certaines victimes venues lui demander des comptes. Aujourd'hui encore, il confesse les faits au micro de nos confrères d'ici Auxerre.
Je faisais tout, y compris soigner les élèves quand ils étaient malades. Et j'avoue que je le faisais maladroitement. Je ne veux pas dire que je suis innocent, non. Il y a eu des attouchements. Je pense avoir eu des tendances de ce type depuis toujours, je pense.
Quel regard vous portez sur cette partie de votre vie ?
Oula, je leur demanderai pardon. J'ai essayé d'être un bon prêtre. J'ai beaucoup travaillé, non pas pour me dédouaner du reste. Je l'ai fait, le bien aussi.
Un élève victime dans les années 80 s'était confié à sa mère. Elle s'était plainte au supérieur du curé. Le père Plater avait juste été muté dans l'Yonne où il a animé des activités, des camps de vacances avec des dizaines de jeunes pendant des décennies. Lui jure qu'il n'a jamais récidivé, sauf reconnaît-il sur une petite fille de sa famille.
Mathilde Lemaire, 72 noms de femmes scientifiques bientôt inscrits sur le pourtour du premier étage de la Tour Eiffel. Annonce faite par la mairie de Paris aujourd'hui. Ces noms de femmes rejoignent donc ceux des hommes déjà gravés sur la Dame de Fer, afin de lutter contre l'invisibilisation des femmes, de rendre aux femmes scientifiques la place qui est la leur, défend la mairie de Paris. France Culture, il est 18h16. À l'issue de cette semaine de rentrée scolaire, quel avenir pour les manuels scolaires, ceux qui élèvent l'esprit des élèves, quitte à alourdir leur sac. Alors que ces manuels sont déjà de l'histoire ancienne pour des dizaines de milliers d'élèves en Ile-de-France cette année, la région ayant fait le choix de les remplacer par des cours en ligne, eh bien des enseignants, des écrivains et des éditeurs s'en alarment et redoutent une école sans boussole réduite à du scroll, écrivent-ils dans une tribune publiée dans Le Monde mardi. Bonsoir Chloé Le Prince.
Bonsoir Julie.
Alors dans le contexte de cette polémique, vous revenez ce soir sur les usages de ces manuels scolaires au lycée.
Oui, car il faut savoir que globalement, en sciences de l'éducation ou en sociologie des pratiques de lecture, eh bien en réalité, on sait très peu de choses sur la manière dont les enseignants ou les élèves travaillent ou ne travaillent pas avec les manuels. Très peu de travaux scientifiques sur cette spécificité française. Le choix d'un manuel, c'est la liberté pédagogique de l'enseignant en France. Pour Éric Bruyard, qui préside l'Association internationale pour la recherche sur les manuels et les médias éducatifs, cette polémique repose en fait assez peu sur la réalité et révèle surtout une certaine vision idéale. Du fantasme même, dit le chercheur, qui met en garde contre une position tranchée dans ce débat, parce que dans certaines disciplines, les enseignants travaillent déjà énormément avec des ressources disponibles hors manuel, sans compter la façon dont les lycéens vivent. Éric Bruyard.
En lycée, les élèves sont plus grands, les parents en général ne regardent pas ce qu'ils font, et les ados savent très bien mettre à distance. Donc les gens, en fait, ont une vision fantasmée de ce que c'est. Si on regarde du côté des élèves et pas du côté des profs, eux, ils ont des formes culturelles assez complexes, c'est-à-dire ils ont ce qu'ils font dans la vie d'adolescence, ils vont rechercher beaucoup de choses ailleurs, sur Internet, dans les forums de discussion, etc. Les youtubeurs, pour eux, c'est très important, donc ils ont tout un tas d'éléments complémentaires qui ne sont pas dans les manuels. Et ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir des gens comme un youtubeur qui fait une continuité. C'est pas le cours du prof, le cours du prof, ils l'ont eu avant, mais ça permet de réviser un peu autrement. En plus, les lycéens, c'est comme les étudiants. Dès que les choses sont trop institutionnelles, ils vont aller ailleurs. Donc, vous pouvez toujours essayer de concevoir des choses qui sont, entre guillemets, bien pour eux. Une partie de leur activité va consister à aller chercher ailleurs. Le tout, c'est qu'il faut réfléchir avec eux ou pour eux sur cette complémentarité entre ce qu'ils vont trouver ailleurs et ce qu'ils vont avoir via le lycée.
Et pour Éric Bruyard, l'usage des manuels serait sans doute plus habituel, plus courant, si du côté des lycéens, les manuels remplissaient davantage ces fonctions de vigie ou de guide.
Le problème, c'est que depuis très longtemps, il y a plein de ressources externes. Et en gros, le manuel serait mieux maintenant et dans l'avenir comme un espèce de dépositaire des concepts principaux, une espèce d'espace d'orientation vers ce qu'on va trouver à l'extérieur.
Alors le débat ne part donc pas des usages, Chloé, mais est-ce que c'est parce que c'est d'abord une question économique ?
Pour Éric Bruyard, derrière cette question d'Emmanuel Rietveld, hein, presque un marronnier, en fait c'est un sous-secteur dans l'édition qui chaque rentrée tire la sonnette d'alarme en s'estimant fragilisé, mais en réalité c'est avant tout une question de marché, avec aussi de vieux éditeurs scolaires qui se rebiffent face à de nouveaux entrants. Hachette Éducation domine le marché avec plus de 50% des ventes de manuels, mais le groupe Bolloré s'étend en fait sur tout le segment scolaire avec d'autres marques en plus de Hachette, là où de nouveaux acteurs, parfois soutenus par les pouvoirs publics, proposent par exemple des cartes cognitives ou cartes mentales, une autre façon de transmettre. Et ça, eh bien c'est intéressant aussi parce que dans l'histoire de l'édition, cette catégorie manuel scolaire, elle ne va pas de soi. Elle a été forgée par des acteurs qui l'ont construit depuis l'intérieur du secteur, ne serait-ce que le syndicat national de l'édition, par exemple, pour comptabiliser les parts de marché. Un historien de l'éducation comme Alain Chopin rappelle qu'on met le livre de l'élève en catégorie édition scolaire, mais pas le livre de l'enseignant. Le livre du maître, lui, est un produit intellectuel du côté de l'édition non scolaire. Finalement, pensez aujourd'hui depuis les ressources disponibles, à partir de ce qui fait source, de ce qui fait document, ça pourrait aussi être une façon d'ouvrir l'accès des élèves à d'autres formes de savoir.
Chloé Leprince pour France Culture. Un mot de météo avec un samedi ensoleillé, estival sur la quasi-totalité des régions. Les températures minimales sont en revanche en baisse avec 6 à 12 degrés attendus demain matin et jusqu'à 34 degrés demain après-midi sur le sud-ouest. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, Olivier Arnay à la technique.